L'invention de Paris, c'est paru en 2002, donc j'avais travaillé dessus à partir de 2000 par là, donc ça faisait bien une bonne quinzaine d'années. Et j'avais l'idée de faire un livre, un autre livre sur Paris, mais différent, avec une focale plus serrée, parce que l'invention de Paris, c'était écran large. Il y avait tout, l'histoire, tous les quartiers, depuis toujours. Enfin, c'était pas un gros livre, mais ça mêlait énormément de choses. Et j'avais envie de faire un livre sur un sujet plus cadré. Alors, j'ai pensé à un lieu. Et puis, j'ai pensé à un itinéraire. Je me suis dit, un itinéraire, c'est pas mal. Parce qu'un lieu, il faut tenir la distance hein, sur un lieu. Perec, il a écrit « Tentative d'épuisement d'un lieu de Paris ». Mais ça fait pas... Ça fait 10 pages, hein, ou 12 pages. Donc un itinéraire. Et je crois me souvenir que j'ai choisi l'itinéraire de ce livre presque sans réfléchir. Un itinéraire sud-nord qui va d'une librairie à Ivry à une autre librairie à Saint-Denis. Donc il traverse Paris à peu près au milieu du sud vers le nord. Bon, une fois que j'ai décidé que ce serait ça l'itinéraire, j'ai commencé à réfléchir en disant bah, ça passe par où. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que cet itinéraire traversait des lieux qui m'étaient propres, des lieux qui correspondaient à énormément de choses de ma vie. Ceux qui croient à l'inconscient penseront avec moi que si j'ai choisi cet itinéraire quasi sans réfléchir, c'est pas pour rien. Il passe par là où je suis né, par là où j'ai passé ma jeunesse, par là où j'ai fait mes études, par là où j'ai travaillé comme chirurgien, comme éditeur, bref. Je me suis rendu compte que, au fond, j'avais toujours vécu sur ce trajet-là. Enfin, c'est comme ça que je m'en souviens maintenant du début. Cela dit, il faut se méfier de sa mémoire, mais je crois bien que c'est comme ça que les choses se sont passées. Je crois que je ne reconstitue pas un truc artificiellement. Je suis sûr que je n'ai pas réfléchi plus de 5 minutes pour trouver l'itinéraire, parce qu'il y avait bien d'autres traversées de Paris possibles. Hein. Est-Ouest, Diagonale, enfin, les traversées de Paris. Il y a autant de traversées de Paris qui a de diamètre dans un cercle, c'est-à-dire beaucoup. Celui-là, ça m'a paru absolument évident. Alors, quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a troublé. Et j'ai demandé conseil à deux amis proches, un garçon et une fille, enfin un homme et une femme, parce que ce ne sont plus des gamins. Et je leur ai dit, est-ce que vous trouveriez que c'est amusant, intéressant, idiot, de mêler à la description de l'itinéraire avec son histoire, son architecture, tout ça, d'y mêler des souvenirs personnels accrochés à ces lieux. Alors ils m'ont beaucoup encouragé. Je leur ai donné des bouts et ils m'ont dit « mais en plus ». Alors je voulais pas que ça tourne quand même à une espèce d'autobiographie déguisée. Mais enfin, c'est la première fois que j'ai écrit un livre à la première personne. Il est clairement écrit à la première personne du singulier. Alors qu'à l'invention de Paris, non. Il n'y a pas de « je » dans l'invention de Paris. Peut-être par accro une fois ou deux, mais ce n'est pas un livre à la première personne du singulier. Alors ce livre-là, oui. Mais plutôt que de parler en l'air, j'ai choisi de vous en lire des morceaux, histoire que vous vous rendez compte un peu comment c'est goupillé, quoi. Le premier passage que je vais vous lire... Il se passe vraiment, alors là, complètement dans le quartier de mon enfance. Mais enfin bon, n'anticipons pas. En descendant depuis de Ferrochereau depuis la place, le mur de gauche bordait autrefois l'infirmerie Marie-Thérèse, fondée par Madame de Chateaubriand pour accueillir des veuves et des prêtres âgés. Au livre 37 des Mémoires d'Outre-Tombe, rédigé dans ce lieu en mai 1833, Chateaubriand, alors âgé de 65 ans, ah oui, il y a des petits crobards pour qu'on s'y retrouve. Il y a quelques photos aussi. Alors âgé de 65 ans, médite Chateaubriand médite sur l'aménagement du site. Mes arbres sont de mille sortes. J'ai planté 23 cèdres de Salomon et 2 chênes de druide. Ils font les cornes à leur maître de peu de durée. Brevem dominum. Ces arbres, je ne l'ai pas choisi, comme à la vallée au loup, sa précédente résidence, en mémoire des lieux que j'ai parcourus. Qui se plaît aux souvenirs conserve des espérances. Mais lorsqu'on n'a ni enfant, ni jeunesse, ni patrie, quel attachement peut-on porter à des arbres dont les feuilles, les fleurs, les fruits ne sont plus les chiffres mystérieux employés au calcul des époques d'illusion? Au reste, mes arbres ne s'informent guère s'ils servent de calendrier à mes plaisirs ou d'extrait mortuaire à mes ans. Ils croissent chaque jour, du jour que je les crois. Ils se marient à ceux de l'enclos des enfants trouvés et du boulevard d'enfer qui m'enveloppe. Je n'aperçois pas une maison. À 200 lieues de Paris, je serai moins séparé du monde.
Il n'est pas très vieil. Hein. Là, j'explique que pour voir les jardins, qui existent toujours, hein, il faut aller boulevard Raspail, parce que là, sur l'avenue, c'est fermé, on voit rien. Mais sur boulevard Raspail, on peut les voir. De retour sur l'avenue d'Enfer Rochereau, je reviens donc, je longe le mur de l'œuvre des jeunes filles aveugles et je parviens devant l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. C'était encore à l'époque romantique l'hôpital des enfants trouvés. On pouvait abandonner son enfant dans le fameux tour dont parle Balzac. Le dispositif était analogue à celui qu'on trouve dans les bureaux de poste. Un cylindre mi-ouvert et mi-fermé dont la rotation permet de faire passer un paquet d'un côté à l'autre d'une paroi sans que celui ou celle qui dépose le nouveau-né puisse être vu ou sans qu'il soit possible de menacer d'un pistolet le préposé au guichet pour se faire remettre la caisse. Ce lieu, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, ce lieu est pour moi indissociable du souvenir d'un homme dont c'est peu de dire qu'il y a travaillé, il y a passé l'essentiel de sa vie. Gilbert Huot était roux, pas très grand, mais d'imposante stature technique et morale. Il avait inventé, élaboré, amené à maturité une discipline nouvelle, la réanimation néonatale. L'unité de soins de Huot n'était pas une usine, mais la pointe avancée de l'artisanat médical. Tout était pensé, tout était parfait, jusqu'au dernier sparadrap. Pendant des années, la chirurgie cardiaque pédiatrique parisienne, dont je faisais partie, a confié à Huot ses opérés. Les bébés de 3 ou 4 kilos étaient transportés en ambulance spéciale jusqu'à SVP, comme on disait. Le rouquin n'était pas commode. Je ne me rappelle pas l'avoir souvent vu rire, mais j'ai été souvent engueulé par lui parce que le cathéter était mal fixé, parce que le drap était à moitié bouché, parce que la sonde était trop enfoncée. Il n'était jamais satisfait. Et bien qu'il ne fût ni plus vieux ni plus titré que moi, il m'en imposait. Il a tiré d'affaire des nourrissons par centaines. Il a formé des générations de réanimateurs pédiatriques. Il était toujours là, il ne prenait pas de vacances. Peut-être était-il quelque peu névrosé pour mener pareille existence, mais s'il existe quelque chose comme une justice divine et un paradis, alors Gilbert Huot est sûrement là-haut et en bonne place. Un type formidable. Face à l'hôpital, s'ouvre la rue Cassini, perpendiculaire à l'avenue d'Enfer Rochereau, qui longe la façade de l'observatoire, œuvre de Claude Perrault, le frère de Charles, l'auteur des Contes. Claude fut à la fois médecin et architecte, et non des moindres. C'est à lui que fut confiée la colonnade du Louvre, après que les projets du Bernin eurent été refusés par Colbert. Quant à Cassini, c'est le nom de toute une dynastie d'astronomes qui furent pendant plus d'un siècle les directeurs de l'observatoire. Le numéro 12 de la rue Cassini est un immeuble de style moderne 30 où j'ai vécu avec mes parents du lendemain de la libération jusqu'à mes 18 ans. Depuis notre duplex au 5e et 6e étage, la vue plongeait dans les jardins d'un couvent de l'avenue d'Enfer Rochereau où les bonnes sœurs faisaient pousser leurs légumes. Je crois que elles sont toujours là avec leurs légumes. Et s'étendait au loin vers le sud jusqu'à Gentilly et Ivry. Les journées étaient rythmées par le face-à-face avec la grande horloge de l'observatoire, dont j'ai peut-être tiré ma manie de la ponctualité. J'ai passé là mes années de lycée, il n'y avait pas de collège à l'époque. D'abord à Montaigne, où je me rendais par les allées de l'observatoire en longeant les frises du Parthénon reproduites sur le bâtiment de briques devenu Institut d'art et d'archéologie.
puis la faculté de pharmacie, puis l'école coloniale, on disait la colo, construite en style mauresque. À partir de la classe de 4e, les élèves de Montaigne passaient à Louis-le-Grand, qui n'était pas le lycée élitiste qu'il est devenu. Pour m'y rendre, je prenais tantôt la rue Saint-Jacques et tantôt le boulevard Saint-Michel, mais quand il pleuvait, je prenais le 38, plateforme ouverte à l'arrière, où les pompiers et les agents de police pouvaient monter en surnombre en s'accrochant en montant, receveur qui glissait les billets dans la fente d'un petit appareil métallique tenu sur son ventre et tourné pour les estampiller, une manivelle dont j'entends encore le bruit. La rue Cassini a peu changé depuis lors. Du côté du faubourg Saint-Jacques, plusieurs hôtels particuliers 1900 y mettent du pittoresque, même si l'immeuble du numéro 1 n'est plus celui où Balzac vécut de 1828 à 1837 et écrivit une bonne part de la comédie humaine. Je me souviens que dans l'un de ces hôtels vivait un bon second rôle du cinéma français des années 50, Bernard Lajarige. Il joue un agent de police dans La Traversée de Paris, dont la fille était d'une beauté troublante pour la bande d'adolescents dont je faisais partie. Voilà, je saute un passage dans le livre, là, je vais rue Méchain, où j'accompagnais mon père, qui allait dans une imprimerie qui s'appelait l'imprimerie Union, où les gens travaillaient encore, quand j'étais gamin, au plomb. La casse, souvenir extraordinaire. Ça. Bon, alors je passe ça, j'arrive carrefour de l'Observatoire. En le traversant, le carrefour, je pense à la fin de Ferragus. Ferragus, c'est le premier des trois parties de l'histoire des 13 de Balzac. Ferragus, la duchesse de Langeais, la fille aux yeux d'or. Je pense à la fin de Ferragus, où le chef des dévorants, autrefois redoutable, est un vieillard brisé à qui les joueurs de boules empruntent sa canne pour mesurer les coups. Entre la grille sud du Luxembourg et la grille nord de l'Observatoire, écrit Balzac, c'est un espace sans genre. Espace neutre dans Paris. En effet, là, Paris n'est plus, et là, Paris est encore. Ce lieu tient à la fois de la place, de la rue, du boulevard, de la fortification, du jardin, de l'avenue, de la route, de la province, de la capitale. Certes, il y a de tout cela, mais ce n'est rien de tout cela, c'est un désert. Autour de ce lieu sans nom s'élèvent les enfants trouvés. La Bourbe, c'était la maternité. La Bourbe, l'hôpital Cochin, les Capucins, l'hospice de la Rochefoucauld, les Sourds-Muets, l'hôpital du Val-de-Grâce. Enfin, tous les vices et tous les malheurs de Paris ont là leur asile. Et pour que rien ne manquât à cette enceinte philanthropique, la science y étudie les marées et les longitudes. Monsieur de Chateaubriand y a mis l'infirmerie Marie-Thérèse et les Carmélites y ont fondé un couvent. Les grandes situations de la vie sont représentées par les cloches qui sonne incessamment dans ce désert, et pour la mère qui accouche, et pour l'enfant qui naît, et pour le vice qui succombe, et pour l'ouvrier qui meurt, et pour la vierge qui prie, et pour le vieillard qui a froid, et pour le génie qui se trompe. Puis à deux pas est le cimetière Montparnasse, qui attire d'heure en heure les chétifs convois du faubourg Saint-Marceau. Les gens qui disent que Balzac écrivait mal, ça... Fin de la citation. Sur le terre-plein entre la rue d'Assas et la rue Notre-Dame-des-Champs, qui n'est pas à saleter, certains de mes amis jouaient encore au boule il y a une vingtaine d'années. À la réflexion, les lieux énumérés par Balzac sont encore là, même si les noms ont changé, comme si la science, l'église et l'hôpital avaient une vertu de conservation. Vertu qui s'étend d'ailleurs aux environs. Le boulevard de Port-Royal est resté le même qu'au temps où ma mère allait y faire son marché. Et le boulevard Montparnasse à garder jusqu'au carrefour Raspail, ses trottoirs calmes et ses boutiques provinciales. C'est vrai que ça n'a pas tellement changé ce coin-là. Alors que si on fait 500 mètres vers Montparnasse, plus rien n'est pareil. Après, il y a un passage sur la rive gauche en général. Le passage précédent, c'est une digression assez longue sur les cinémas d'art et d'essai de la rive gauche dans les années 50. La dernière phrase, c'est: depuis lors, la concentration dans la distribution et la prolifération des multisalles ont entraîné la fermeture de beaucoup de ces cinémas indépendants dirigés par des cinéphiles cultivés. Je raconte d'ailleurs là-dedans que
au studio Parnasse, qui était rue Jules Chaplin. Tous les jeudis, le patron posait des questions sur le cinéma, très difficiles. Celui qui répondait juste, il avait une place gratuite, une entrée gratuite. Et ça, je l'ai vu, mais on m'a dit que quand Truffaut était là, il raflait toutes les places. Bon, alors, cette dernière phrase a entraîné la fermeture. Hein. Cette dernière phrase peut se lire comme un symptôme. Les années passant, la tendance naturelle est de trouver que tout était mieux autrefois, c'est-à-dire quand nous étions jeunes. Se penchant à devenir un vieux ronchon nostalgique, je ne prétends pas en être totalement exempt. Mais il n'est pas seul responsable de ma distanciation, pour dire le moins, vis-à-vis de la rive gauche actuelle. Car c'est un objectif décadence qui a frappé le cœur même de cette rive, entre le Jardin des Plantes et la rue du Bac, entre le boulevard Montparnasse et la Seine. Elle a pour toile de fond, cette décadence, elle a pour toile de fond un transfert de population. Quand j'habitais rue de la Montagne-Sainte-Geneviève à la fin des années 50, des ouvriers vivaient dans le quartier. Certes, souvent au dernier étage, dans de petites chambres avec les toilettes sur le palier, mais ils étaient là. Des travailleurs algériens logeaient dans des hôtels à la semaine ou au mois, entre Maubert et la Seine, rue Maître Albert, rue Frédéric Seton, rue de Bièvre. Jamais un président de la République n'aurait pensé à ce coin-là, c'était pas imaginable. Des clochards colonisaient la place de la Contrescarpe et la rue Mouffetard. Ceux qui ne me croient pas peuvent lire l'excellent Paris insolite de Jean-Paul Kléber, paru en 1952 chez De Noël. Quand mon père avait sa maison d'édition rue de Seine, on rencontrait dans les cafés du quartier autant de vêtements de travail que de vestes de tweed. Puis, à partir de 1960, la grande opération de rénovation lancée par Malraux et poursuivie par Pompidou a fait monter les loyers à des niveaux tels que le prolétariat a été chassé du centre de la rive gauche en attendant d'être poussé hors de Paris. Pendant ce bouleversement sociologique qui s'est étalé sur des années, des événements se sont succédés qui ont eu pour effet de vouer la rive gauche au fétichisme de la marchandise. Avant mai 68, le quartier latin méritait pleinement son nom. Tous les étudiants de Paris étaient concentrés là, à la Sorbonne, à la faculté de droit sur la place du Panthéon, dans les deux facultés de médecine, dans celle de pharmacie, avec en outre les grandes écoles encadrant la montagne Sainte-Geneviève, les mines, normales sup, polytechniques, les beaux-arts sur le quai Malaquais. Toute cette jeunesse animait le quartier, lui donnait une gaieté et une beauté sensibles aussi bien dans les amphis que dans les cafés, les bibliothèques et les jardins. Après mai, des mesures furent prises pour empêcher la récidive d'événements aussi fâcheux. D'abord, les rues furent asphaltées, donc difficiles à dépaver. Puis les étudiants furent dispersés dans de nouvelles facultés construites loin du centre et d'accès aisément contrôlable. Bon, certes, c'était nécessaire, il y avait de la congestion, mais on pouvait sûrement s'y prendre autrement. Une autre péripétie, plus tardive, fut le démantèlement de la place forte de l'édition qui était le 6e arrondissement. Ah oui. Souvenons-nous, Hachette, dans son gros bloc à l'angle du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel, Flammarion rue Racine, Robert Laffont place Saint-Sulpice, Larousse boulevard Raspail, Le Seuil rue Jacob, Azan rue de Seine, Nathan rue Monsieur le Prince, la liste pourrait être bien plus longue. Mais du fait de la concentration capitaliste de l'édition, du remplacement des éditeurs par des financiers préoccupés du retour sur investissement, beaucoup de grandes maisons ont abandonné leur siège historique et émigré dans des immeubles en verre et métal près du périphérique. Certes, plusieurs éditeurs importants, Gallimard, Minuit, Fayard, Bourgois, entre autres, sont restés dans le quartier, mais ils sont là comme les vestiges d'une splendeur passée. Quelques années auparavant, l'art contemporain avait délaissé la rive gauche. Vers 1960, à l'époque des nouveaux réalistes, les galeries étaient concentrées dans un quadrilatère limité par la rue Guénégo, la rue Bonaparte, le boulevard Saint-Germain et la Seine, à peu près. Sur la rive droite, on ne trouvait guère que des galeries d'art ancien. Or, vers les années 1990, pour des raisons tenant sans doute au loyer, l'art contemporain a émigré en masse vers le quartier de la Bastille, puis vers le Marais. Il reste aujourd'hui quelques bonnes galeries sur la rive gauche et plusieurs excellents marchands de mobilier des années 30 et d'art africain. Mais encore une fois, entre guillemets, ça n'est plus pareil. D'autant que la librairie,
autre activité traditionnelle du lieu, est elle aussi en repli. Et quand je dis repli, beaucoup de petits libraires ont fermé, mais surtout quatre établissements ont disparu, qui faisaient figure d'institutions et presque de symboles du quartier. La joie de lire de François Maspero rue Saint-Séverin, qui fut l'université politique de toute une génération, les presses universitaires de France, place de la Sorbonne, grande et belle librairie académique, plus récemment la librairie du Moniteur, place de l'Odéon, irremplaçable pour l'architecture, et dernièrement la Une, à l'angle de la place Saint-Germain-des-Prés et de la rue Bonaparte. Pendant mes années de lycée, ce lieu, cet angle, qui s'appelait le Divan, était tenu par un auteur, éditeur, libraire à l'ancienne, Henri Martineau, le grand spécialiste de Stendhal à cette époque. Au gamin que j'étais, il voulut bien dédicacer des exemplaires d'Henri Brulard et des souvenirs d'égotisme. Bon, c'était un copain de mon père. Édition typographiquement et philologiquement admirable. Cet angle est revenu au luxe, comme l'ancien siège de la Une sur le boulevard Saint-Germain, qui est aujourd'hui une boutique Vuitton, porte-drapeau de la vulgarité bourgeoise. Ces diverses mutations ont eu des effets convergents. La vie intellectuelle, entre guillemets, a disparu sur la rive gauche. Certes, sous ce mauvais terme, on trouvait beaucoup de snobisme et d'esprit de caste. Mais il flottait pourtant dans ces rues quelque chose de l'esprit de Sartre, de Giacometti, de Pérec, de Genet et de Mastroianni, fidèles clients du Balto à l'angle des rues Mazarine et Guénégo. Le luxe et la fringue ont fait fuir leurs fantômes. Et tous les Parisiens de cœur en ont gémi, comme dit Louis-Sébastien Mercier, à propos de je ne sais plus quelle destruction à la chaussée d'Antin. Bon, après, on passe la Seine, en suivant la rue Saint-Denis, on arrive au passage du Quai. Et il y a des photos aussi. Ça c'est une photo d'Adjé, sur la façade du passage du Quai. Et il y a des photos que j'ai prises. Entre la rue du Caire et la rue d'Alexandrie, la rue Saint-Denis borde le passage du Caire, doyen des passages parisiens, ouvert en 1799, au lendemain du retour d'Égypte de l'expédition de Bonaparte. L'égyptomanie d'alors se lit ici dans le nom des rues, Alexandrie, Damiette, Aboukir, le Caire, et dans la superbe façade de l'entrée principale, place du Caire, ornée de trois têtes de la déesse Hathor. Le passage du Caire n'est pas seulement le plus ancien, il est aussi totalement différent de tous les autres passages parisiens. Qu'il soit plutôt chic, comme les passages Vérododa, Colbert, Vivienne, ou populaire, comme les passages Choiseul ou Jouffroy, ce sont des lieux pour flâner, acheter de la bimbeloterie ou des livres, prendre un café. Bref, comme dit Walter Benjamin, le passage n'est que la rue lascive du commerce, propre seulement à éveiller les désirs. Le passage du Caire n'est rien de tout ça. Il n'est pas fait pour la promenade et l'on n'y croise aucun touriste. Son activité est le commerce en gros de tissus, de prêt-à-porter et de matériel pour vitrines, mannequins, portants, décorations et emballages, ce qui n'est pas si loin d'ailleurs de ses activités d'origine qui étaient l'impression de calicot. Il est solidement tenu par les séfarades et l'unique café-restaurant, le Beverly, informe qu'il est sous le contrôle des Lubavitch. L'intérêt de ce passage n'est pas dans ses vitrines, mais dans son architecture, ses verrières, sa distribution compliquée. Bien que son plan d'ensemble soit rectangulaire, ses galeries sont disposées en étoiles et il n'a pas moins de 6 entrées. Devant ces entrées se tiennent, dès le matin, des Pakistanais et des Sri Lankais, appuyés sur leur diable, attendant d'être loués à la course ou à l'heure pour charger des camions ou déménager des stocks. C'est le client qui fixe le prix. Et la négociation n'est évidemment pas simple pour ces néo-esclaves, dont beaucoup n'ont sans doute pas de papier. Après, on arrive Gare du Nord. Il y a un long passage sur la Gare du Nord. Gare du Nord est un endroit formidable. J'ai dit plus haut que la façade de la Gare du Nord était un chef-d'œuvre. Extraordinaire, c'est une beauté extraordinaire, il faut que personne ne s'arrête pour la contempler, alors que des foules se pressent devant la façade de Notre-Dame, dont la statuaire n'est pas plus ancienne que celle de la gare, hein, puisque la statuaire de Notre-Dame est entièrement 19e, hein, puisque les statues ont été détruites pendant la Révolution. Je pense d'ailleurs qu'il doit y avoir des sculpteurs qui ont travaillé aux deux, hein, à la gare du Nord et à Notre-Dame. Là, il y a une description de la façade, je passe. La masse de la gare du Nord donne une impression d'unité. L'extension récente en retrait et d'une architecture judicieusement décalée, celle qui est à droite hein, quand on regarde, n'y apporte pas de trouble à cette unité. Mais cette unité extérieure est un masque. Sur toute son étendue, la gare est divisée en trois niveaux, un de plein pied avec la rue et les autres en sous-sol. Cette démarcation est bien plus que spatiale, car le haut et le bas ne communiquent pas plus qu'au temps d'Ulysse, le monde des vivants et celui des ombres. L'étage du haut est impeccable. Sous la grande verrière, la signalétique est claire, les sièges sont confortables, un kiosque propose un choix de presse étrangère, les cafés sont propres et accueillants. De là partent les trains Thalys pour les capitales du Nord et l'Eurostar, dont l'accès est protégé par un système de sécurité comme dans un aéroport. Les voyageurs sont des cadres, des hommes et femmes d'affaires, des touristes, blancs, propres et bien habillés. En descendant, le niveau moins 1 n'est pas pire que la station Châtelet du RER. C'est le vaste niveau inférieur qui vaut la visite. Le plafond est bas, les couleurs sombres, l'éclairage glauque, la signalétique incompréhensible et la sonorisation inaudible. Les lignes de train de banlieue étant fort nombreuses, plus de 40, l'ensemble forme un labyrinthe lugubre. Celles et ceux qui arrivent chaque matin et partent chaque soir vers Goussainville, Lusarche, Persan-Beaumont, Villers-le-Bel s'y retrouvent. Mais d'autres errent sur les quais, cherchant le train qui les ramènera au Châtelet ou les conduira à Roissy. La population de ce niveau d'en bas est en grande majorité noire. Les vidéos prises pendant les émeutes qui rythment la vie de cette gare montrent des foules noires en colère. Assez peu d'Arabes, ce qui objective la différence entre les deux populations, la noire, d'implantation plus récente, de statut plus fragile, et repoussée au diable Vauvert, alors que les Arabes sont bien accrochés dans les communes de la première couronne, Saint-Denis, Aubervilliers, Gennevilliers, accessibles par le métro. Quant aux Blancs, ce sont des touristes hagards, tentant de déchiffrer des annonces aussi mystérieuses que les oracles antiques, et des malabars de la sécurité ferroviaire, dont la brutalité est bien connue des usagers. Impossible de tenter ici ce qu'a admirablement réussi Anna Maria Ortese dans Silenzio a Milano. Passer la nuit sur un banc à observer l'humanité qui choisit une gare comme refuge dans la brutalité de la vie. Impossible, car de banc ici, il n'y en a pas. Après, ben, toujours en marchant, on arrive sur le boulevard Ney et on arrive à la porte de Saint-Ouen et on est en face de l'ancien hôpital Bichat hein, qui borde le boulevard périphérique juste à la sortie du souterrain. Là. De ce côté, le mur de l'hôpital revêtu de briques d'un jaune sale, percé d'ouvertures assez rares et protégé par des grilles, offre un spectacle rébarbatif. Parmi ces ouvertures, il en est une au premier étage qui était la fenêtre de la chambre de l'interne de garde en chirurgie dans les années 1960. Comme elle surplombait la sortie du souterrain de la porte de Saint-Ouen, et comme la circulation nocturne des camions était alors intense, hein, les halles fonctionnaient, il n'était pas question de dormir en fin de nuit lorsque se calmait enfin l'afflux des patients lors de ces gardes infernales. En 1961, j'étais interne dans le service de César Nardi. C'était un bel homme, élégant, excellent chirurgien, grand bourgeois, mais non antisémite, ce qui était plutôt rare à cette époque et dans ce milieu. C'était un passionné de golf. Un jour où il m'aidait pour ma première gastrectomie, une opération sur l'estomac. Alors qu'ayant commencé tard, nous n'en étions qu'au préliminaire, il me dit, Hazan, c'est la Canada Cup, il faut que je vous laisse. Je finis donc l'intervention avec deux jeunes externes. Dans les suites, j'allais voir cet opéré trois fois par jour, tant il me semblait miraculeux que j'ai bien fait ce qu'il fallait. Cet homme, sculpteur dans le quartier, était si reconnaissant d'une telle attention qu'après sa sortie, il me fit cadeau de ses deux motifs de prédilection, une tête de cerf et un buste de béton. On était alors en pleine guerre d'Algérie et l'hôpital Béchard recevait souvent des blessés par balles qui provenaient tantôt de la police et tantôt de tirs entre militants du FLN et du MNA. Dans le service, la surveillante de l'équipe de jour faisait descendre les opérés algériens dès le lendemain de l'intervention au sous-sol, où le suivi et les soins étaient plus que réduits. Quand j'étais de garde, je les faisais remonter, si bien qu'un jour, Nardi me demanda pourquoi je donnais la préférence au Nord-Africain dans son service. Je lui demandai de m'accompagner au sous-sol, où il ne mettait jamais les pieds, et il me donna raison contre sa vieille peau de surveillant. C'était un honnête homme. Il n'est pas facile de décrire ce qu'était un hôpital public dans un quartier comme celui de Bichat au début des années 1960. C'était avant le plein temps hospitalier. L'après-midi, on n'y trouvait plus aucun médecin ni chirurgien confirmé. Ils étaient à leur cabinet en ville ou dans leur clinique. Admission et intervention reposaient sur deux internes de garde, l'un en médecine, l'autre en chirurgie. Pour les anesthésies générales, il fallait obtenir l'autorisation téléphonique de l'un des deux chirurgiens de garde pour tout Paris, un rive droite, un rive gauche, qui était en train d'opérer à Passy ou à Neuilly et qui donnait toujours, très amicalement, sa bénédiction. Sauf s'il s'agissait d'un ou d'une mineure, auquel cas il devait être présent, restant le plus souvent en civil dans l'entrée de la salle d'opération. Les locaux vétustes étaient plus que pleins. L'hiver, à Bichat, on tendait de draps noirs les murs de la chapelle et l'on y entassait des brancards pour ceux qui étaient admis dans la nuit. Toute pathologie, toute génération confondue. Personne n'y trouvait à redire, c'était des pauvres. C'était effrayant. Et puis, si vous n'êtes pas trop fatigué, je vous lis la fin. Pas vraiment une conclusion, c'est la fin, quoi. Les images de Paris ont toujours été multiples et contrastées. Du sombre Paris de Baudelaire, et le sombre Paris en se frottant les yeux, empoignant ses outils, vieillard laborieux, hein, crépuscule du matin. Du sombre Paris de Baudelaire au rêve hollywoodien d'un Américain à Paris. Cependant, à quelques moments troublés, quand la ville cesse d'être une fête, un tableau particulier se construit dont les traits se ressemblent étrangement au fil des époques. Ce tableau, c'est une ville menacée par l'afflux d'éléments étrangers, par une invasion. Paris étant souvent pris comme métonymie de la France. Sous le Second Empire, les convives de la princesse Mathilde, Taine, Flaubert, les frères Goncourt, redoutaient la populace parisienne et furent soulagés par l'écrasement de la Commune, composée aux trois quarts d'étrangers, d'après Maxime Ducamp, le grand copain de Flaubert. 70 ans plus tard, sous l'occupation, Céline, Brasillac, Rebattet dénonçaient, parfois au sens propre, ce juif omniprésent à Paris, pour lequel il avait fallu le dogme insane de l'égalité des hommes pour qu'il pût à nouveau se faufiler parmi nous. C'est Rebattet. Aujourd'hui, 70 ans plus tard, c'est tous les 70 ans, une nouvelle fois des auteurs à succès de plus en plus nombreux parlent des islamistes dans les banlieues, comme Maurras traitait les juifs et du Mafis les ouvriers révoltés. Dans ces discours apparaît le même mélange de mépris et de peur, avec toujours une composante policière, un appel plus ou moins explicite à une réaction musclée contre ceux qui foulent aux pieds nos précieuses valeurs. Je fais confiance à Paris pour se secouer et évacuer une nouvelle fois tous ces miasmes. Je serais tenté de suivre l'illustre exemple de Stendhal, qui souhaitait que l'on écrive sur sa tombe « Arrigo Bail Milanese ». Car parisien, c'est bien ce que je me sens être, bien plus que français ou juif, costumes qui ne me vont pas du tout. Habitant depuis toujours cette grande ville qui réunit 10 millions d'êtres humains, je comprends et même je plains ceux qui vivent dans des ghettos de riches et sont effrayés quand ils en sortent de voir tant de gens qui ne leur ressemblent pas. Ils se rassurent, en pensant que tout ça durera bien autant qu'eux, que leurs journaux et leurs écrans maintiendront la durable résignation du peuple parisien, des caissières et des serveuses, des conducteurs d'autobus et des ouvriers du bâtiment, des chômeurs, des chauffeurs-livreurs et des sans-papiers, de ce prolétariat peuplant les rues que j'ai parcourues dans cette courte traversée d'une ville bien plus vaste. Je pense qu'ils se trompent. Je pense que, sur une musique et des paroles nouvelles, ce prolétariat multicolore porte l'héritage des mémorables journées dont j'ai montré les traces. Que tout inorganisé qu'il est, et sans conscience claire de cet héritage, il est uni par le sentiment de son exploitation sans fin, et qu'il montrera un jour que non, le peuple n'a pas perdu la bataille de Paris. Voilà, ça se termine comme ça.
assez remarquable la façon dont vous avez décrit tout ça. Bon, moi je dois être un peu plus jeune que vous, mais pas tellement, donc j'ai connu tout ça. Et c'est vrai que la façon dont je suis choqué, là vous le traduisez bien et de manière optimiste.
Optimiste, oui, oui, oui. Il faut se garder, surtout en ce moment.
Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr.
Où vraiment, on nous décrit un grand nuage noir qui recouvre la planète, où il n'y a que des fachos de l'extrême droite. Bien sûr, je ne vais pas dire que tout va pour le mieux, ça serait idiot. Mais cette espèce de bouillie défaitiste, il ne faut pas plonger là-dedans. Le défaitisme, ça mène à la résignation, ça mène à l'acceptation de l'ordre des choses. Alors, évidemment, il y a de la nostalgie dans ce livre. Enfin, j'ai essayé de ne pas trop en enfiler de nostalgie. Peut-être que les choses que j'ai choisi de lire donnent plus l'impression de nostalgie que ce que le livre dans son ensemble, peut-être.
C'est le parcours des bus 96 et 38.
Ah, c'est ce que j'ai pris.
Ouais. Oui, tout à fait.
Après, vous allez pour des lilas, mais enfin, bon...
Surtout le 38, c'est vraiment...
Le 65 est pas mal, il change complètement de, ah oui, de population après la guerre de l'Est.
Oui,
65...
Il va de Verbier à la gare de Lyon. C'est en descendant, pardon, de la Chapelle, tout ça.
Comme dans le métro, hein.
Ah oui, oui, comme la ligne 2 du métro, hein, quand on a passé Place Clichy, on est chez des gens bien propres.
En présentant le livre, vous avez parlé de Saint-Denis. Je ne me trompe pas ?
Non, ça se termine à Saint-Denis.
Une librairie.
Moi, j'aime bien Saint-Denis. J'aime beaucoup cette ville. Si je déménageais demain, ben, j'irais habiter Saint-Denis.
Oh.
À cause de l'ambiance, c'est une ville d'Orient, quoi. La rue principale, la République, là, c'est vraiment... C'est pas un ghetto, c'est joyeux.
C'est
le centre n'a pas,
hein,
pas tellement bougé. Les alentours, oui.
Je ne sais pas si vous êtes sensible, mais aussi, moi, il y a une chose qui me touche moi beaucoup à Saint-Denis, c'est que dans l'ancien Carmel, il y a le musée de Saint-Denis, dans lequel il y a un énorme fonds d'aumier et consacré à la Commune de Paris. L'ancien Carmel, je trouve ça vraiment quelque chose d'étonnant. Quoi. Le musée de Saint-Denis, c'est quelque chose, je trouve, de...
Puis il y a des expositions temporaires.
Oui.
Moi, l'année dernière, j'ai même vu une exposition d'Autodix.
Oui, c'est ça, mm-hmm. Les dessins de guerre.
C'est très diversifié. Et puis, il y a des traces du Moyen-Âge énormément. Parce que quand ils ont fait les travaux dans la cathédrale, il y a eu des fouilles. Mm-hmm. Puis il y a la légende de Saint-Denis aussi, qui est très importante.
Cette basilique, c'est quand même extra. Un truc incroyable.
Oui, oui.
Que les gens connaissent pas tant que ça. Enfin bon, c'est connu, mais n'y vont pas tant que ça.
Tu parlais de la disparition des librairies. Est-ce que maintenant, les librairies, pour trouver un peu populaires, tout ça, on les retrouve pas justement en banlieue, avec Saint-Denis, avec Montreuil, avec...
Un peu, il y a de bonnes librairies en banlieue, ça c'est presque une nouveauté.
C'est presque une nouveauté, mais ça se...
Donc l'endroit aujourd'hui, hein, là je parle en tant qu'éditeur, donc la librairie pour nous, c'est la librairie indépendante, c'est notre oxygène, hein, c'est,
ouais,
pour nous c'est déterminant, la librairie indépendante. Le secteur dans l'Île-de-France où la librairie indépendante est la plus vivante, c'est l'Est parisien.
Hier, j'étais à la Folie d'Ancre, par exemple, à Montreuil.
De Montreuil, oui.
Et je félicitais les jeunes vendeurs qui conseillaient directement les personnes qui achetaient pour Noël, etc. Et c'était remarquable, quoi. C'est-à-dire,
oui,
les préconisations qui étaient faites étaient tout à fait intéressantes. Bon, c'est pas avec Amazon qu'on a ça.
Ah bah
c'est
non.
Clair.
Dans le 19e, il y en a.
Oui, il y en a aussi, peut-être. Effectivement, près dans l'Est.
Au 104.
Il y a le 104.
Il y a la librairie.
Il y a Texture, rue Avenue Jean Jaurès.
Absolument.
La rue du Jourdain.
À 20e. Oui, oui, c'est ma librairie. Ça montre à quel point la librairie est quelque chose de personnel. Hein, parce que dans cette librairie, l'atelier de rue du Jourdain, en face, quand on monte la rue de Belleville, il y a l'église à gauche à un moment donné. Oui. La rue du Jourdain descend vers la rue des Pyrénées. Comme ça. Les sciences humaines, c'est-à-dire le rayon où vont les livres de la fabrique, il est nettement plus petit que cette table. Et il fait parfois presque autant de chiffre d'affaires, on y vend presque autant de livres que, je sais pas, à la librairie Compagnie en face de la Sorbonne, où il y a carrément tout un étage. Quoi. Parce que la personne qui s'occupe des sciences humaines, elle aime bien la fabrique et les éditeurs du même acabit, et elle les défend. Et quand un libraire défend une cause, ouais, il fait ce qu'il veut.
Et quelle est la librairie à Saint-Denis?
Folie d'encre. Folie d'encre, il y en a une à Montreuil.
Ouais, c'est pas les mêmes.
Est-ce qu'un point de vue capital, j'en sais rien. Mais Folie d'encre à Saint-Denis, c'est une femme formidable qui a des enfants de tous les continents, toutes les couleurs, qui est vraiment très chouette et la librairie est formidable. Et en bas à Ivry, Envie de lire, c'est aussi une librairie formidable qui vaut le détour. Si on y va avec une idée dans la tête en disant « il me faudrait tel truc », il n'y sera pas. Mais on ne partira pas sans rien. Parce qu'on trouvera des trucs. Par contre, alors, comme je l'ai dit dans le fragment que j'ai lu, sur la rive gauche, c'est dramatique. La régression de la librairie. Les très bonnes librairies, il ne reste plus que Tchan, voire Montparnasse, qui reste une valeur sûre. Littérature, sciences humaines, moyen, mais littérature, très 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 bonne librairie. Il reste Tchan, il reste Compagnie en face de la Sorbonne, qui est en sciences humaines formidable, en littérature, il y a tout, mais on risque pas d'y trouver quelque chose en disant « Ah ça c'est !» Mais en bas, oui, très 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 grand choix. Et puis Gibert, très bonne librairie.
Très difficile d'accès, on est bousculé, mais on ne peut pas dire qu'on choisit un livre là-bas.
Si on arrive à l'escalator, après on est tranquille. En plus, il y a des bouquins d'occasion, les libraires sont excellents, bien meilleurs que dans les FNAC. Oh, Gibert, c'est une librairie qui compte. Hein.
Oui, Monsieur le Prince, c'est une petite librairie, et la libraire...
L'escalier.
Elle est toute jeune.
Enfin, c'est une petite librairie.
Oui, c'est une petite, mais heureusement qu'elle est là.
Tu disais que tu étais optimiste, un peu relativement optimiste sur l'évolution de Paris. Par rapport à l'édition et vu de l'éditeur, en fin de compte, est-ce que tu gardes cet optimisme aussi ou est-ce que tu sens une difficulté justement pour les maisons d'édition, pas simplement dans les grands mainstream, quoi ?
Il y a vraiment un fossé qui s'est creusé, béant, large, entre l'édition industrielle, les groupes, dans lesquels aujourd'hui il faut faire entrer Gallimard, Actes Sud, c'est pareil. Hein. Ce sont des groupes vraiment dirigés par des financiers et l'édition artisanale. Alors, si on s'en tient aux chiffres, nombre de volumes vendus ou chiffre d'affaires, je pense que c'est 95%, 5%. Et quand je dis 5, donc l'édition qui est la mienne, enfin à la fabrique, la nôtre, et celle de boîtes comme Agone, comme Amsterdam, enfin... Là, je parle que des sciences humaines. En littérature, il y a l'équivalent. Ces boîtes-là, quand elles tiennent, c'est-à-dire quand on arrive à équilibrer, à avoir des frais généraux pas trop importants, des salaires pas trop importants, à payer les gens quand même, à bien payer les auteurs, quand on arrive à l'équilibre, ça, c'est relativement stable. La faiblesse, c'est les médias. La fabrique, on n'a pas de presse. On ne parle jamais de nous dans les journaux. Avec ce livre-là, il y a eu plus de presse que pour tous les livres de la fabrique sur 3 ans. Paris, les gens se souviennent de l'invention de Paris. Voilà. Ils m'aiment bien, les journalistes, jusqu'à un certain point. Ceux qui s'occupent de sciences humaines ne m'aiment pas trop. Mais ça avait été d'autres journalistes, un autre réseau. Donc la difficulté dont tu parles, c'est non accès aux médias. Alors, pour certains livres, c'est pas grave. Mais il y a des livres qui sont tués par le silence, hein, dont la vie est rendue délicate par le fait que la presse n'en parle pas.
Mais Internet, maintenant, fait partie des médias. Hein,
oui.
Sans avoir les défauts des médias.
Oui, oui. C'est sûr. On a une liste de gens à qui on envoie des nouvelles. 15 000 noms, on a. Ça, c'est vraiment très important.
C'est ça.
Ça et les libraires. Les libraires, c'est déterminant. Ça, et un bon diffuseur-distributeur, si on n'a pas un bon diffuseur-distributeur, là, on est mort. Hein.
C'est ça.
Nous, c'est une boîte qui s'appelle Les Belles Lettres, qui est très bien. Les représentants qui vont voir les libraires sont vraiment des hommes et des femmes cultivés. Beaucoup sont d'anciens libraires. Ils lisent nos livres. Ils ont les orientations politiques de la maison, ils ne sont pas contre. Hein. C'est loin de là. Il y a une empathie. Ils font bien leur boulot. Les tout petits distributeurs font souvent faillite. Quand votre distributeur fait faillite, vous êtes mort. Plongez avec lui.
Mais est-ce que l'avenir, c'est pas la version numérique ?
Eh bien, pour l'instant, rien ne permet de l'indiquer. Hein.
Il y a pas mal de gens qui lisent sur tablette. Hein.
Ouais.
Moi, j'ai lu tout Eugène Sue sur tablette. J'aurais pas acheté. C'est un avenir pour l'écriture.
Pour l'instant, c'est marginal.
Est-ce que vous avez, vous, dans vos éditions, quelques ouvrages qui sont en version numérique?
Ah oui, oui, on numérise tout. Pour ne pas faire tort aux libraires, on ne les met en vente que 18 mois après la parution. Pour que l'effet nouveauté, ça soit que pour les libraires. Après, 18 mois après parution, ça va. On va finir par avoir tout notre catalogue numérisé. Là, on doit avoir plus de la moitié.
Ça, c'est bien.
Mais les ventes, c'est peanuts. Non, aux États-Unis, c'est plus important qu'ici. Mais ici, c'est pas 2%, c'est moins de 2%. C'est...
Parce que vous dites qu'aux États-Unis, c'est plus répandu. Alors, est-ce que c'est, ça tient à la culture américaine ou est-ce...
Ça tient au fait qu'aux États-Unis, il n'y a pas de librairie.
Ouais.
En Amérique, il n'y a plus de librairie. À New York, il y a 2 librairies. En Angleterre non plus. Il n'y a pas de librairie parce que il n'y a pas de prix unique du livre. Alors ça s'est passé en 2 temps. Premier temps, les grandes chaînes, genre Fnac de là-bas, tuent la librairie indépendante par des discounts que la librairie indépendante ne peut pas suivre. Et dans un deuxième temps, les chaînes elles-mêmes sont tuées par Amazon. Mais un de nos auteurs, André Chiffrin, raconte dans un livre que nous avons publié qui s'appelle L'édition sans éditeur, il raconte que quand il était jeune, pour gagner sa vie, pendant les vacances, il travaillait dans les librairies. Il dit qu'il y avait 330 librairies à New York. Quand il était jeune, malheureusement, il est mort il n'y a pas très longtemps, mais enfin, c'était un gars de mon âge. Donc sa jeunesse étudiante, c'était 60. 330 librairies. Là, aujourd'hui, à New York, 3. À Londres, 2. Le prix unique du livre, en France, maintient la librairie.
Ça n'a pas duré longtemps, hein.
Je crois que ça, c'est bien ancré, maintenant.
On dit toujours c'est Lindon, mais c'est Lindon seul, ou c'était vraiment que tout le monde avait compris que... Enfin, il y avait beaucoup d'autres personnes qui avaient compris que c'était essentiel.
Je crois que le rôle de Lindon a été très important. Et à l'époque, Lang l'écoutait.
C'est ça. Aspero a joué un rôle aussi.
À cette époque-là, est-ce qu'il était encore dans le coup?
Oui, il avait encore la librairie.
Il avait encore, oui.
Latin, il faisait encore des débats, des choses comme ça. Hein.
À l'époque où la loi Lang est...
Oui.
La loi Lang, c'est Mitterrand. Hein.
Oui.
Donc c'est 82-83. Est-ce que ça existait encore, la joie de lire, en 82-83? Oui, peut-être. Ça commençait déjà à battre de l'aile, je crois.
Oui.
Avez-vous un projet?
Oui, mais il n'est pas bien défini. Je suis encore très hésitant. Oui. Et pour la fabrique, beaucoup.
Comment fonctionne votre érudition, monsieur? Est-ce que vous partez d'une anecdote pour aller, ou est-ce que vous partez d'une grande histoire et vous allez vers le petit détail?
Pour ce livre, par exemple, je ne suis pas allé en bibliothèque. Les citations, hein, ce sont des choses... J'en parle à un moment donné dans ce livre en disant « C'est ma famille de papier. Tous ces bouquins-là, ils sont, je sais où ils sont, j'ai l'habitude, je sais où je trouverai. » Je ne sais pas si ça répond à la question que...
Non.
Non, ça ne répond pas.
Pour l'avancement de Paris, vous avez travaillé...
Je voulais savoir...
Beaucoup. Beaucoup en bibliothèque.
Voilà. C'est pas universitaire, mais c'est une quantité.
J'ai beaucoup été à la bibliothèque historique, à la BHVP, oui.
Non, je voulais dire, avançant légèrement en âge, comment fonctionnez-vous? Est-ce que vous vous mettez à rêver autour d'une anecdote et vous allez vers... Et puis tout à coup, la plume court, vous racontez beaucoup de choses? Ou bien est-ce que vous... Vous faites des fresques historiques dans la tête et puis ensuite vous arrivez à faire des petits rameaux. Vous voyez, c'était votre manière. Mais
moi, j'ai aucune imagination. Toute cette traversée, je l'ai faite et archi-faite. Je n'ai pas d'imagination.
Ça ne vous vient pas d'une nostalgie, donc. Il n'y a pas des mélancolies. Tout à coup, vous avez une anecdote. Enfin, je ne sais pas comment fonctionnez-vous.
Sûrement par association. Il y a un fil qui traverse tout le livre. Ce sont les journées de juin 48. Disons, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. c'est quelque chose auquel on se raccroche. Moi, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose parce que je ne peux pas inventer. Je serais absolument incapable d'écrire un roman. J'ai beaucoup de souvenirs historiques et littéraires qui finissent par faire une espèce de nuage qui peut remplacer l'imagination. C'est juste.
On va peut-être arrêter là.
Allez.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.